t'invite à tourner dans Marc chapitre 1. On continue notre série sur Marc, opération sauvetage. Alors bonjour à ceux qui sont sur la toile. Merci d'être là et n'hésitez pas à écrire des commentaires en info@commercialeglise-le-sentier.com, info@commercialeglise-le-sentier.com. Alors, vous vivez l'expérience dans le confort de votre foyer ou peut-être sur votre balcon, je ne sais pas. Mais écrivez-nous vos commentaires et comment vous vivez votre expérience avec nous. Puis on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bienvenus ici. Les portes sont ouvertes pour vous. Je vous invite à tourner dans Marc chapitre 1, au verset 34, parce qu'aujourd'hui, dans Opération Sauvetage, on va avoir un thème qui, je pense, c'était pertinent il y a 2000 ans, puis dans 2000 ans encore, ça va être pertinent. Puis tant que l'être humain va vivre sur Terre, ce thème-là va être pertinent. C'est le pardon. Parce qu'on va voir ensemble, si vous voulez passer à l'autre diapositive, s'il vous plaît. Le pardon, c'est associé à la guérison. Quand il y a pardon, il y a guérison. C'est quasiment inévitable. Le pardon, c'est tellement puissant, mais en même temps, c'est surnaturel. Si vous pouvez passer à l'autre diapositive, merci. La machine ne fonctionne pas. Alors, je voudrais vous parler d'un exemple, vraiment concret, puis ça touche quelqu'un de la région. Il y en a ici qui connaissaient, par exemple, M. André Constant, qui est pasteur à l'église du Plateau à Hall. Mais vous savez, cet été, il a perdu son gendre, le mari de son épouse, mort à 27 ans. Problème au niveau de l'aorte du cœur. Meurt pendant la nuit. Laisse dans le deuil son épouse qui est enceinte. Mais cet homme-là avait une sœur. Puis en 2008, alors qu'elle se promenait, il y a un homme qui l'attaque, qui l'étrangle, puis lui tranche la gorge. Et on a trouvé le présumé coupable. Et à un moment donné, quand on perd son enfant de cette façon-là, 14 ans, la fille. Puis il y a des enfants qui entendaient hurler, ils pensaient que c'était des chiens qui se battaient. Ils ont vu la scène, ils sont allés voir la femme la plus proche, ils ont pris leur bicyclette, ils ont dit « Hey, il se passe quelque chose, là. C'est pas des farces. » Les 911 est arrivé. Puis il y avait une autre femme qui est arrivée sur les lieux. Puis elle l'a vue, elle n'était même pas encore morte, mais elle était tellement endommagée qu'elle n'était même plus capable de parler. Puis ils ont constaté son décès, une mort tellement tragique, constaté son décès à l'hôpital. Et le père, plusieurs mois plus tard, a été interviewé sur différentes tribunes. Et puis il a confessé qu'il a pardonné l'agresseur de sa fille. Tellement puissant. Moi, savez-vous quoi? Là, humainement, là, si ça avait été arrivé avec ma fille, la première idée qui me vient à l'esprit, là, c'est de prendre un bat de baseball là, puis de faire de la purée de pommes avec ce gars-là. Ça, là, dans mon cœur humain, là, c'est ça. Mais ça démontre que le décalage entre mon cœur et le cœur de ce père-là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est surnaturel. C'est quasiment... C'est tellement difficile d'être capable de dire « Je relâche celui qui m'a offensé, libre. » C'est quelque chose. C'est pour ça que c'est difficile de séparer pardon et guérison. Parce que le pardon, c'est libérateur. Je ne sais pas si il y a des amateurs de... Ça fonctionne, à moins que tu es vite. OK, j'ai compris le code. Okay. Bruno Gagné, sergent détective du district 31. Ceux qui n'ont pas fini la saison de l'année dernière, il est arrivé quelque chose de dramatique. Il faut que je vous vende le punch. C'était à vous d'être à date. Mais c'est dramatique, par contre. Ils suivent l'espèce de fou, là, le sergent détective, qui emprisonnait des femmes. Et là, lui, dans une distraction, frappe une fille de 5 ans, puis elle meurt. Et là, on voit dans cette nouvelle saison-là comment il donnerait n'importe quoi pour que la mère de cette fille, Nancy Réopel, puisse le pardonner. C'est tellement puissant, le pardon. Peut-être qu'on est dans des situations où est-ce qu'on a besoin d'être pardonné, dans une situation où est-ce qu'on a besoin de pardonner, et c'est tout un processus. On va voir dans Marc 1,35 que le pardon, ça soulage, ça libère, ça guérit. C'est pour ça que guérison puis pardon, ça va de pair. Puis ce qu'on va voir ensemble, c'est l'expérience d'un paralytique qui a goûté le pardon. Puis il y a un paradoxe dans cette histoire-là, parce que le roi serviteur, eh bien, manifeste qu'il est un Dieu compatissant, mais par son geste de compassion puis de miséricorde, il sème la controverse. C'est fou, hein? Semer la controverse en faisant du bien. Et c'est pour ça qu'on va voir dans notre parcours que la prière a précédé des déclarations qui sont extrêmement profondes. Des déclarations qui ont précédé une démonstration de miséricorde, mais qui a été coûteuse. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse se recueillir ensemble pour qu'on puisse vivre une belle expérience spirituelle ce matin, afin que le Seigneur parle à nos cœurs et nous donne plusieurs belles petites perles à méditer cette semaine. Prions, s'il vous plaît. Père, merci pour ce passage et merci de nous apprendre et de nous faire vivre, nous faire expérimenter le pardon. Peut-être c'est le pardon qu'on peut expérimenter si on n'a pas connu la nouvelle naissance, le pardon pour des fautes qu'on a commises, le pardon pour en pardonnant des gens qui nous ont fait du mal ou qu'on puisse être libéré par des gens qu'on a blessés en recevant leur pardon. Qu'on puisse l'expérimenter dans les prochains jours, dans le nom de Jésus. Et merci de nous instruire par ce passage. Amen. Marc 1,34, c'est un évangile de Marc hein, quand même. Alors, il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche! » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ce qui est intéressant, c'est cette question-là de prière. La prière ici, dans Marc 1,34 à 39, on voit que c'est ce qui a été le déclencheur. La raison que le Seigneur veut aller de village en village, c'est d'abord, c'est ce que le texte nous révèle, c'est d'abord pour proclamer son message. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait en premier lieu? Il prie. Les gens le cherchent, il y a tellement de besoins, il attire les foules. Pourquoi? Parce qu'il répond à plein de besoins, mais il sait que son Père ne le veut pas là. On voit dans les autres évangiles que ce que Jésus fait, c'est ce que le Père lui a montré, c'est ce que le Père lui a dit de faire, c'est ce qu'il a vu du Père. Puis, il sait pourquoi il doit quitter ce lieu-là. Il s'est entretenu avec son Père. Puis, même s'il voit qu'il y a des besoins de la foule dans ce secteur-là, bien, pour lui, ce n'est pas le plus grand nombre qui l'intéresse. C'est la qualité des attentes, c'est le contact personnel, c'est qui je dois toucher, puis comment je dois le toucher, puis où je dois le toucher. Et il se laisse diriger par son père. Et on voit dans les versets suivants, au chapitre 1, qu'il va visiter une synagogue, il va livrer un discours, il va chasser les esprits du mal qui s'opposent à son règne, puis il va guérir un lépreux. Puis, et ça nous montre une chose. De la même manière que le Père dirige Jésus vers des gens, nous aussi, on peut être dirigé par le Saint-Esprit vers des gens. Parce qu'on a une identité en tant qu'ambassadeur de Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 20, 1 Corinthiens 5, 20, nous dit qu'on est des ambassadeurs de Christ comme si Dieu exhortait par nous. Peu importe où est-ce qu'on se trouve, que ce soit dans un souper d'amis, un souper de famille, au travail, à la pause, dans l'autobus, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Puis c'est pour ça que passer un temps de prière, ce n'est pas un devoir religieux où est-ce que le Seigneur il met sur sa liste, « OK, aujourd'hui, il a prié. » Il augmente des points, tu sais. Il y a des air sky. Air Sky, des points célestes. Okay, tu as plus de points. Là. Tu t'accumules peut-être une bénédiction dans deux semaines. Là, parce que Non. C'est pour vraiment voir qu'est-ce que Dieu s'attend de moi aujourd'hui. Est-ce qu'il veut que je garde le silence? Est-ce qu'il veut que j'observe, que je prie, que je pleure avec les gens? Qu'est-ce qu'il veut dégager au travers de moi? Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est vers qui Dieu nous appelle. C'est quoi son plan pour les gens dans mon entourage? Parce qu'à chaque jour, je suis en contact avec des personnes. Des personnes qui sont plus significatives, moins significatives. Et que ce soit dans mon lieu de travail, dans mon quartier, là où est-ce que je me repose, que je joue, les nouveaux qui visitent l'église. Tu sais, le lundi, moi, je vais au Parlement avec le groupe qui travaille dans le centre-ville d'Ottawa. Je rencontre ces gens-là, mais aussi je suis en contact avec les gardes de sécurité. Quelle attitude que le Seigneur veut que j'aille avec eux, tu sais. Si j'en vois un qui est plus triste ou qui est... Est-ce que le Seigneur va peut-être me mettre à cœur et prier pour cette personne-là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit. Ce n'est pas nécessaire que je rentre, par exemple, en relation. « Hey, ça va-tu bien? Il ne me connaît pas. C'est qui ce gars-là? » Mais je peux prier pour lui. Tu sais. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et de son côté, lui, Jésus, lors de sa première venue, il y avait aussi un réseau. Le Seigneur dit, je t'envoie, son père lui dit, je t'envoie vers les brebis perdues d'Israël. C'était son mandat pour sa première venue. Ensuite, avec l'Église, les disciples ont poursuivi sa mission en allant vers tout le monde. Mais il avait besoin de la direction de son père, de la même manière que nous, on a besoin de ça. Alors, quelques jours après avoir été à la synagogue, avoir fait des miracles, après avoir chassé des démons, eh bien... Il revient à Capernaum, puis il vient donner une leçon qui est déterminante par deux déclarations. Puis ça, on voit ça au chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 à 13. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vient lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis, qui se disant eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. Il y a deux déclarations là-dedans qui sont vraiment intéressantes. Mais avant qu'on rentre là-dedans, ben imaginez-vous ici, là, il y a quelqu'un qui est en train, là, je veux dire, avec des outils, marteau pilon, faire un trou dans le toit. Moi, j'imagine André Chartrand dire, « Hey, qu'est-ce qui se passe ici? On a eu un dégât d'eau, les assurances ne voudront plus couvrir nos frais, on va être obligé de se rendre en Allemagne pour être assuré. » Ça n'a pas d'allure. Je veux dire, si ça arrivait ici, là, je vous imagine, là, des morceaux qui commencent à tomber, là, tout le monde se tasse, s'envole, on fait évacuer la place. Là, on sort, je veux dire, c'est quand même impressionnant. Nous, on lit ça, l'histoire, tu sais, puis on raconte ça à des enfants, mais je veux dire, c'est déconcertant, quand même. Je ne sais pas, moi, je m'imaginais les quatre gars qui veulent le descendre, ils commencent avec leurs outils à faire des trous. J'imagine que le propriétaire il entend ça, il va en haut, il a goût de se battre. Il dit « Arrêtez ça, les gars! » Là, je dis « Il devait avoir la chicane! » C'est pas du « Ben oui, fais un trou dans mon toit, voyons donc! » André Chartrand n'accepterait jamais ça, voyons donc. Il appellerait la police, voyons donc. Mais quand c'est arrivé, Jésus a vu leur foi. Et c'est quoi la première chose que Jésus a dit? Que Jésus a dit, pardon? Tes péchés sont pardonnés. Écoutez, moi, si j'avais été spectateur, j'aurais dit, comment Jésus? Il me semble que tu le vois, son besoin. Il est paralysé. Il est dans un lit de fortune. Guéris-les. Come on, Seigneur, s'il vous plaît, guéris-les, guéris-les, guéris-les. Il me semble que j'aurais été le voir, je suis choqué, Jésus. Tu sais, un petit père guéri-le, me semble, ça serait bon. Mais non, la première chose qu'il s'en va dire, tes péchés sont pardonnés. Mais pourquoi il a commencé avec ça? Parce qu'il a vu que physiquement, il souffrait. Mais dans un premier temps, Jésus ne dit jamais rien pour rien. Il est la vérité. Ce n'est pas juste une déclaration là, orale là, comme ça. Tu sais. Non, non. S'il le dit, c'est que cet homme-là avait besoin d'entendre cette parole-là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il se sentait certainement coupable, il se sentait certainement mal dans sa conscience. N'oubliez pas qu'à l'époque, dans la culture de l'époque, on le voit dans Jean chapitre 9, les gens disaient, « Ah, quelqu'un qui est malade, qui est infirme, tout ça, ça doit être un châtier de Dieu, un exclu de Dieu. » Et lui, il devait se sentir comme ça. Il avait besoin d'être pardonné. Puis Dieu seul pouvait le pardonner parce que c'est Dieu qui a offensé. Mais ça nous montre aussi que le Seigneur ne répond pas toujours à nos besoins ou nos désirs immédiats. Souvent, nous, on a une solution pour notre désir immédiat, pour notre mal de vivre, notre mal d'être. On a une solution qui nous paraît la meilleure. Mais la solution du Seigneur, puis le moyen que le Seigneur utilise, est souvent en contradiction avec le nôtre. Mais à chaque fois, il touche le vrai bobo, le vrai besoin. Quand j'étais jeune, j'avais 14, 15, 16, 17 ans, moi, mon rêve, c'était de devenir une rock star. Moi, je rêvais de ça, je voulais, c'était ma vie, c'était comme, waouh, je voulais être vu, entendu, reconnu. Mais aujourd'hui, je rends tellement grâce à Dieu qu'il n'a pas permis que ça se produise. Ah, je suis certain qu'au début, j'aurais, comme on dit en bon québécois, j'aurais trippé. Je suis certain de ça. Mais je suis certain également qu'après un certain temps, je m'aurais dit, « Wow, il me semble que ce n'est pas ça le sens de la vie. » De se promener de ville en ville, de ne pas avoir de vie de famille stable, de se sentir aimé simplement parce qu'on est populaire. Aujourd'hui, avec le recul, je remercie le Seigneur qui n'a pas permis ça. Mais je le désirais tellement dans ce temps-là, pensant que c'est ça qui va me ramener à la vie, c'est ça qui va donner un sens à ma vie. Mais à 18 ans, ce qui a donné un sens à ma vie, c'est de découvrir que j'étais connu de Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce que Paul nous dit, on est connu de Dieu. 1 Corinthiens 8, 3, Galates 4, 9. Il me voit, il m'entend, il m'a donné une identité. Et si Dieu nous donnait tout ce que notre cœur désire immédiatement, on risque de l'oublier. Quand il a guéri les 10 lépreux, il y en a un qui est revenu pour exprimer sa reconnaissance. Les autres sont partis guéris, ils ne sont pas revenus à lui. Mais on doit voir Dieu, puis voir notre cœur aussi à la lumière de sa parole, pour s'assurer qu'on n'entretient pas de colère quand Dieu ne nous accorde pas ce que notre cœur désire immédiatement. Mais Jésus, lui, sachant qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu, ce qu'il lui offre en premier, ce n'est pas la guérison de son corps, c'est le pardon. C'est ce que cet homme avait besoin d'entendre. Moi, je me souviens, un de mes enfants, à un moment donné, a dû avoir une conséquence qui est... une grande conséquence. Puis, à un moment donné, je m'assois avec lui, je m'en souviendrai toujours, on était dans le sous-sol quand j'habitais à Laval. J'étais tout seul avec lui. Puis je dis, tu sais, c'est parce que je t'aime que tu dois avoir cette conséquence-là. Puis mon enfant s'est mis à pleurer. Puis il m'a dit, tu m'aimes encore, papa? Il avait besoin d'entendre que je l'aimais inconditionnellement. Je l'aimais malgré les fautes qu'il avait commises. Ce lépreux-là avait besoin d'entendre, tes péchés sont pardonnés. En entendant, tes péchés sont pardonnés, il a expérimenté ce que Jésus a dit dans Jean 8. Si vous êtes mes disciples, vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous libérera. Il avait besoin d'être libéré de la culpabilité, de la condamnation de ses fautes, de ses péchés. Mais il a déclaré une autre déclaration. Qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner ou guérir? C'est quoi qui est plus facile? Parce que pardonner, c'est relâcher émotionnellement, libérer émotionnellement, sans endetter émotionnellement celui qui nous a offensés. C'est jamais facile. Puis souvent, le pardon, ça relève d'un miracle. Une des définitions que je trouve pertinente de pardonner, c'est ne plus tenir de ressentiment à l'égard de l'offenseur. Dans le contexte ici, dans le texte, pardonner, ça a le sens de ce que tes péchés sont disparus, envoyés, chassés au loin. Puis le pardon, c'est surnaturel. Le pardon, c'est surnaturel parce que je suis en train de dire, le mal que tu m'as fait, je ne te le fais pas payer. Je te traite comme si tu ne m'as pas fait mal. Je te rendrai pas la monnaie de ma pièce. Évidemment, il y a certaines offenses qui méritent que la justice amène une condamnation. Et quand on regarde le cas de la jeune Emily Stauffer, le père a pardonné, mais il n'a pas dit au juge, « Envoyez-le pas en prison. » Il a pardonné l'offense. Mais la justice a fait que oui, mais cette offense mérite une conséquence, même s'il y a eu pardon. Parce qu'on ne peut pas tolérer le mal dans une société. Puis dans une relation, on ne peut pas tolérer le mal. On peut pardonner sans nécessairement accepter que le mal revienne. Mais dans les deux cas, pourquoi Jésus dit, hey, c'est quoi qui est plus facile? Pardonner ou guérir? Parce que le Seigneur sait très bien que pardonner, ce n'est pas facile. Lui, là, pour lui, pardonner, c'était... Ça écoutait sa vie, ça écoutait l'humiliation, ça écoutait la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la mort à la croix, la séparation de son père. Ce n'est pas juste une phrase, tes péchés sont pardonnés. Il savait le coût. Il savait ce que ça coûtait. C'est un coût extrêmement élevé. Mais gloire à Dieu que Jésus-Christ nous a donné un exemple par sa mort à la croix. Parce que, imaginez-vous un instant ce que serait une société, ce que serait l'humanité si le pardon n'existerait pas. Rester accroché au passé, se venger, vivre dans le remords, dans le ressentiment. Henri Lacordaire disait ceci, « Voulez-vous être heureux un instant? Vengez-vous. Voulez-vous être heureux pour toujours? Pardonnez. » Pardonner, c'est libérateur, mais c'est contre notre humanité qui est divorcée avec Dieu. C'est contre notre nature pécheresse. Mais Jésus, lui, met le doigt sur le besoin fondamental de cet homme. Il est en train de lui faire goûter l'Évangile. Dieu nous accorde le pardon par l'œuvre que Jésus a payée à la croix. Puis notre besoin fondamental, c'est d'être pardonné. D'être pardonné d'abord par Dieu. Puis, c'est en reconnaissant que je suis pécheur que je peux goûter, puis obtenir, puis saisir, puis vivre ce pardon-là que Dieu veut m'accorder en Jésus-Christ. Et Jésus l'accorde à ce paralytique. Mais en déclarant « tes péchés sont pardonnés », il est en train de se faire Dieu. Les spécialistes de la loi disent, « Ben voyons donc, il se prend-tu pour Dieu, lui? » C'est Dieu qui peut pardonner les péchés. Oui, Jésus est Dieu. Oui, Jésus est venu pour justement accorder le pardon des péchés. Et c'est pour ça que dire que tes péchés sont pardonnés, pour qu'il puisse être pardonné ses péchés, il fallait qu'il soit payé. Puis il savait, il dit, je te pardonne tes péchés parce que moi, je vais les payer pour toi à la croix. C'est ça ma mission ultime. Imaginez-vous. Imaginez, pensez à la pire offense que vous avez faite, là. Puis vous avez Jésus qui est devant vous, face à face, puis il te regarde dans les yeux, puis il dit, moi, je l'imagine qu'il me regarde dans les yeux, il dit, Éric, là, c'est pardonné. Écoute, moi, je fondrais en larmes. Je tomberais sur mes genoux, la face à terre, en disant, wow! Wow! Je ne peux pas rester comme, « Ah, oh, je suis pardonné. Oh Jésus, merci. » Ça a un prix, ça a une valeur, ça a un poids. Puis en même temps, c'est libérateur. Dit, « Wow! » Il ne tient plus compte de cette faute-là dans ma relation avec lui. Ça coûte pardonner. C'est pour ça que je dis que ça relève d'un miracle, parce que ça coûte, ça fait mal. Dieu a été offensé, mais il a dû vivre une douleur physique dans son corps, une angoisse dans son âme, puis une séparation avec Dieu dans son esprit. Dans les deux cas, guérir ou pardonner, c'était une intervention surnaturelle. Et c'est pour ça qu'il en a fait la démonstration. L'œuvre du roi serviteur est démontrée tout au long des évangiles, puis ici, il démontre sa compassion. Tout au long des évangiles, il démontre sa compassion aux exclus, aux malades, aux ceux qui sont rejetés, à ceux qui vivent le poids de la religion. Puis dans ce cas-ci, il la montre à un soi-disant exclu. Il fait la démonstration qu'il est le Dieu véritable, le Messie, celui qui vient accomplir les prophéties de guérir les malades et de pardonner les péchés. Mais c'est ce qu'un pasteur appelle ici l'ombre de la croix. Pourquoi? Parce que là, il est en train de révéler, je ne suis pas juste un faiseur de miracles qui attire les foules. Je suis le Dieu véritable, le Messie qui est annoncé. Et à cause que je fais cette déclaration-là, à cause que je dévoile mon identité en lui, pardonnant ses péchés, eh bien, je vais finir sur la croix, je vais finir crucifié. C'est étrange, hein? Parce que le roi serviteur, le Dieu compatissant, sème la controverse en pardonnant puis en guérissant. En conclusion, puis j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer, la résistance puis le pardon nous gardent dans le ressentiment, la colère, la douleur, la souffrance. Le pardon, c'est l'acte ultime de délivrance. Il nous libère de la culpabilité, du blâme. Puis j'aimerais terminer en vous laissant un dernier exemple qui est survenu il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Quelques années auparavant, il y a une fille qui avait 12 ans. Puis elle a été agressée à répétition par un homme qui avait une trentaine d'années à l'époque. Puis un peu plus de 10 ans plus tard, elle a dénoncé son agresseur. Puis quand elle s'est présentée au palais de justice le 19 mars 2018, elle a affirmé en cour qu'elle pardonnait son agresseur. Pour moi, ça relève du miracle. Puis c'est pour ça que quelqu'un un jour a dit, « Quand on pardonne, on ne change pas le passé. » Mais on change assurément l'avenir. Le pasteur Stauffer, le père de la jeune Émilie, a dit, « On a dit que le pardon est comme peler un oignon. Il semble toujours y avoir une autre couche à décoller. C'est pourquoi nous devons parler des étapes, au mieux des aspects du pardon. » Il y a des étapes, il y a des strates. Et le Seigneur vient parler, vient visiter en profondeur. Mais venons à lui avec les fautes qu'on a commises et les pardons qu'on doit donner, accorder. Mais pour apprendre à pardonner, on doit d'abord goûter le pardon libérateur que le Seigneur veut nous donner, parce qu'il veut guérir puis restaurer notre âme. C'est pour ça qu'on va terminer par la prière, on va se recueillir, pour venir à lui, puis obtenir son pardon, ou recevoir ce qu'on a besoin pour libérer le pardon. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, puisses-tu ouvrir nos yeux sur les offenses qui nous échappent pour qu'on puisse goûter à ton pardon? Justement, hier, je disais à un frère que j'ai rencontré que je vais appeler son fils parce que je dois lui demander pardon pour une faute que j'ai commise il y a une quinzaine d'années. J'en ai pris conscience plus tard. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on blesse les gens. Merci que toi, tu m'as pardonné, Seigneur, et je te demande de préparer son cœur pour que je puisse avoir la grâce, parce que ce n'est pas un dû, qui puisse me pardonner, Seigneur. Merci pour la croix qui nous libère de ta colère parce qu'on t'offense, puis on n'a pas, on ne réalise pas à quel point on t'offense par nos fautes. On ne réalise pas à quel point ça te fait mal. On prend pour acquis parce que c'est payé, Seigneur, trop souvent, mais ça te fait mal. Seigneur, pardon. Mais merci en même temps que tu l'as payé ce prix. On est reconnaissant. Et c'est pour ça que si tu n'as jamais goûté ce pardon, si tu veux que le Seigneur te libère de tes fautes, de la culpabilité, du poids, essaie pas de justifier ta faute, mais viens simplement recevoir le pardon. Parce que Jésus-Christ, il est le seul qui est mort à ta place. Dieu s'est fait homme pour mourir à ta place. Si tu reconnais que tu es pécheur, il te sauve gratuitement. Seigneur, apprends-nous à pardonner en guérissant notre douleur émotionnelle et en opérant cette délivrance. Toi seul peux le faire. Toi seul peux libérer notre cœur pour pardonner ceux qui nous ont offensés. On te le demande dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ton pardon, ton salut à la croix. Et merci pour cette résurrection qui nous rappelle que le Père a accepté ce prix à la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.